Ce chour est dédié par un généreux donateur pour la réfraîche de notre secrétaire, Noam Nathan Ben Avraham Avinu, que Dieu l'envoie réfraîchement à lui et à sa femme aussi, qui est aussi la pauvre. Elle, a... bon, elle va mieux déjà, mais elle aussi, elle est tombée malade. Dans le cadre de notre rubrique, les Joël Parashat, Parashat Mishpatim. Mishpatim est une des parashot de la Torah qui contiennent le plus de mitzvot. On est juste après le don de la Torah au Mont Sinaï et Hachem transmet beaucoup, beaucoup de mitzvot au Bnei Israël. Ce sont essentiellement des mitzvot Belam Chavero, entre l'homme et son prochain. Et il y avait un très grand rabbin, le grand de la génération, environ 150 ans, même un peu plus, 150 ans. C'est après le Rabbi Israël Salanter, Rabbi Israël de Salante. Et c'était un homme qui a beaucoup, beaucoup influencé le peuple d'Israël dans l'étude du Moussard, dans le fait d'étudier une grande bagarre après à son époque. Il voulait insérer, on voulait insérer 20 minutes de Moussard dans le programme des Yeshivot. Beaucoup se sont opposés. Non, il faut tuer la Gemara sans cesse. À la fin, il a gagné, lui et ses élèves. Et c'est aujourd'hui rentré dans toutes les Yeshivot qu'on ne peut pas vivre sans Moussard. Le Moussard, c'est donc une étude qui fait qu'on va travailler sur ces mauvais traits de caractère. Il a mis extrêmement l'accent sur Belam Chavero, entre les lois, entre l'homme et son prochain. Il a décidé le 25 Shvat, c'est cette semaine, et c'est la semaine de Parashat Mishpatim. À l'époque, les grandes générations ont dit, voilà, ça lui va très très bien. C'était vraiment sa paracha à lui, de Rav Israël Salanter, où il y a tellement de mitzvot qui concernent l'homme et son prochain. Hein, l'essentiel de ces mitzvot sont écrits dans notre paracha là. Et c'est vrai que du point de vue de la bataille qu'on a contre le mal, il est beaucoup plus facile de vaincre un Yetzer Hara, un penchant du mal, des lois entre l'homme et Dieu, faire Shabbat bien, manger kasher comme il faut, acheter un bon loulav, manger la matzah super kasher, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile que s'arranger dans les mitzvot qu'il y a entre l'homme et son prochain. Parce que entre l'homme et son prochain, forcément, il y a notre ego qui en confronté à l'ego de l'autre, je ne vais pas dire en bagarre, souvent en bagarre, ou en concurrence, ou en jalousie, d'accord. Et c'est beaucoup plus dur de se battre contre notre ego à ce niveau que par rapport à la relation avec Hachem. Par rapport à Hachem, je n'ai pas d'ego. J'ai un ego de paresse, j'ai un ego de... d'accord, mais bon, on peut le vaincre plus facilement que lorsque c'est les relations qui entre l'homme et son prochain. Et c'est l'occasion de parler à quel point ces choses-là sont importantes. Il y avait le Rosh Yeshiva de Mir, s'appelait le Rav Chaim Shulevitch, Zatzal, il a écrit, il parlait beaucoup de cela, il a donné l'exemple suivant. On voit qu'il y avait un homme tzadik qui s'appelle Elkana, comme ça débute le livre de Shmuel. C'est le père de Shmuel. Shmuel n'était pas encore né. Il avait deux femmes. Une s'appelait Hana, elle était stérile, et une s'appelait Pnina, qui avait beaucoup d'enfants. 7 enfants elle avait. Et les deux étaient des grandes tzadikotes, des femmes très très bien. Et Pnina savait que Hana avait un grand pouvoir de prière. Alors, elle l'embêtait. L'Eshem Shamaim, pas parce qu'elle était méchante, par bonté. Elle voulait qu'elle ait des enfants. Elle a déjà 7 enfants, Pnina. Hana n'a rien du tout. Alors, elle l'embêtait. Chaque fois, ils allaient acheter des choses pour les enfants. Ils allaient acheter des chaussures. Tiens, t'achètes pas pour tes enfants. Achète, bientôt, tu auras des enfants. Prie que tu aies plus d'enfants, etc. Comme ça, elle l'embêtait sans cesse. Et la pauvre Hana se mettait à pleurer. Maintenant, tout ce qu'elle a fait, c'était l'Eshem Shamaim. C'était vraiment pour le bien. Elle a reçu une punition terrible. Que chaque enfant, après Hana a prié, elle a eu un premier enfant, Shmuel, après un deuxième, etc. Chaque enfant qui naissait à Hana, Pnina perdait 2 enfants. Terrible. Demande le Rav Chaim Shmulevitch, je ne comprends pas. Elle n'a pas fait ça par méchanceté, elle a fait ça à l'Eshem Shamaim, vraiment pour le bien. Elle a, en plus, ça a marché, elle a prié, Hana, elle a eu un enfant. Le Rav répond, hein, Mme Ravero, les relations entre l'homme et son prochain, hein, c'est pas, il n'y a pas de logique maintenant, l'Eshem Shamaim ou pas. C'est une réalité, c'est du feu. Quelqu'un met sa main dans le feu, il est brûlé. Maintenant, il met sa main dans le feu, l'Eshem Shamaim. Pas pour une raison X, Y, Z. Maintenant, sa main dans le feu, l'Eshem Shamaim. Elle ne va pas être brûlée. Ben, Chavero, c'est ça. Tu rentres dans une machine que Dieu a mis en place, que quand tu touches ton prochain, tu t'attires sur toi des choses terribles. Terribles. Je veux dire que dans ma vie, j'ai vu des gens, comment ils ont agi. Et après, des fois, ils étaient bloqués toute leur vie pour une seule chose qu'ils ont fait. Je ne sais même pas si eux savent pourquoi. D'accord? Mais je vois, je ne peux pas raconter trop, mais je vois des choses comme ça. On voit Comment? Alors, le type, il n'a pas fait Shabbat, il a été avec une fille de façon interdite. Ok, il fera tchouva, etc. Mais ben, Ravero, c'est une chose terrible. Des fois, mes fils étaient au séminaire, une fois, une classe entière n'a pas réussi à se marier. Un an passe, deux, trois, quatre, cinq ans, toute la classe, personne ne peut se marier. Ils ont vérifié, ils ont fait un sale coup à une maîtresse il y a quelques années, et elle a été touchée dans le ciel. Ah, ils ont demandé Mechila, etc. Ouais, la même année, elles se sont toutes mariées. On ne se rend pas compte à quel point quelque chose de terrible. Abraham Shkolevitch prend l'exemple d'une Gemara, Rav Rechoumi. Il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rav Rechoumi, et lui, il étudiait toute l'année hors de chez lui. Il ne rentrait jamais à la maison. Il n'étudiait pas à 10 km, d'accord, à 5 km, mais il ne rentrait jamais à la maison. Il rentrait que la veille de Kippour. La veille de Kippour rentrait à la maison, vivait Kippour, il reste avec sa femme, et Moshe Kippour repartait de nouveau pour une année. Et un jour, il est au Beth Midrash, la veille de Kippour le matin, il est en train d'étudier. Il se dit, bon, allez, il faut que j'y aille. Ouais, mais c'est trop passionnant, là, comme ça. J'ai encore étudié encore un peu, il étudie encore un peu, une petite demi-heure, pas encore une petite demi-heure, encore une petite demi-heure. Et sa femme, elle voit déjà 10h du matin, il doit arriver. Ce jour, mon mari doit venir à la maison. 10h30, 11h, 11h30, toujours rien, une larme. Elle a eu une larme. Au même moment, le plafond du Beth Midrash s'est écroulé et Rav Rechoumi, il est mort. Pourquoi? Ben c'est normal. Ta femme, elle vit sans toi toute l'année. Tu lui fais cette saloperie. Étudie les Torah maintenant. Elle t'attend. C'est une année. Vous êtes 24 heures ensemble. Mais encore, c'est Yom Kippour. C'est pas le temps d'aller boire un thé ensemble et faire la causette. D'accord? Elle fait l'effort toute l'année d'attendre, de te laisser aller étudier. Et toi, tu viens en retard une heure et demie. Le feu des relations entre l'homme et son prochain. Maintenant, pose la question à Madame Rechoumi. Alors Rechoumi, qu'est-ce que vous préférez? Qu'il vienne en retard à midi, à 1h30, à 2h? Ou devenir almana, veuve? Demande-lui, qu'est-ce qu'il préfère? Ben, je préfère 3 ans ne pas le voir de suite, mais que j'ai un mari qui reste, d'accord? Que mes enfants aient un père. Dans le ciel. Ils ont fait une chose qui est contre l'intérêt de Madame Rechoumi, parce que c'est insupportable. On ne peut pas supporter comme ça que tu aies touché ton prochain à ce point-là. Une larme! Le Rav Mazman Auerbach, c'est le grand de la génération. Énorme, en Torah, énorme. Il était d'une gentillesse avec les gens, sourire, toujours sans cesse, une délicatesse. Un jour, il rentre chez lui, accompagné par son élève, et il vérifie s'il est bien propre comme ça avant de rentrer chez lui. L'élève lui dit, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je m'apprête à rencontrer la Shrina, la présence divine. Quoi? Oui, ma femme. C'est marqué dans le livre de Kabbalah que la femme correspond à la présence divine dans la maison. On rentre pas comme ça. D'accord? Quel cavode! Quel honneur il lui faisait lorsqu'elle est décédée. La coutume, elle est que quand quelqu'un est décédé, les proches demandent Mechila. Je demande pardon si je fais du mal, etc. Je dis, je ne demande pas pardon. J'ai jamais fait une chose dans ma vie à ma femme que j'ai besoin de demander pardon. Qui peut dire ça pour une semaine de vie avec sa femme? Lui, une vie entière. C'est ça les grands d'Israël. C'est pas connaître toute la Torah et super sadique. Ça, c'est facile. Dans la relation avec son prochain. Razonich, il a dit, toute ma vie, l'effort le plus grand que je fais, c'est pour arriver à ne jamais toucher mon prochain, arriver à toujours être délicat, faire attention, jamais blesser quelqu'un, c'est grave, rouler quelqu'un, c'est bien onat, onat, mamon, rouler quelqu'un. Les sages d'Israël disent onat, dvarim, blesser quelqu'un, c'est beaucoup plus grave que de rouler quelqu'un. Dans les deux, je touche mon prochain, mais là, tu touches dans son argent, là, tu le touches dans son cœur, tu lui fais mal. On ne se rend pas compte des fois les factures qu'il y a sur ça, c'est terrible. La Gemara raconte, Mor Oukva, un grand sadique, il allait tous les jours donner de l'argent, il mettait en cachette à l'entrée des maisons des pauvres comme ça, lui et sa femme, tac, ils allaient poser un peu d'argent comme ça. Et un jour, dans une des maisons, un des pauvres habitait là-bas, il a voulu savoir c'est qui ce donateur anonyme, j'aimerais bien savoir qui c'est. D'accord, il s'est caché derrière la porte et dès qu'il a vu qu'on mettait, il ouvre la porte. Les deux, lui et sa femme, ils sont cachés comme ça, ils sont mis à courir pour pas qu'il les voie. Et eux, le pauvre, il leur court après. Ils sont rentrés dans un four qui avait été allumé, on avait enlevé tous les charbons, mais il est encore super chaud. Et à Morgva, il est comme ça, puis il commence à avoir très très chaud aux pieds. Alors sa femme lui dit, vas-y, mets tes pieds sur les miens. Et quoi, t'es pas brûlé? Non, moi ça va. Pourquoi les sages d'Israël? Parce que Morgva, quand il donnait à des pauvres, il donnait de l'argent. Et sa femme, elle donnait à manger directement. Qu'est-ce qui est plus plaisir à un pauvre? Un pauvre, il a faim, tu lui donnes de l'argent, c'est gentil, mais il doit aller à la macolette, il doit aller à l'épicerie, aller acheter, cuisiner, machin, tout ça, en attendant, il crève de faim. Quand il doit manger directement, il a un profit plus direct. Donc elle n'était pas chauffée par le... Elle n'était pas brûlée par le sol du four, c'est les grands fours qu'il y avait à l'époque, comme dans les boulangeries d'antan, d'accord. Et elle a dit à son mari de mettre ses pieds sur les siens. Maintenant, pourquoi ils ont fui? Le pauvre, il veut voir qui c'est. Eh bien, c'est pas ton affaire. Pourquoi tu fuis? Toi, tu fais en cachette. Il veut voir qui c'est son affaire à lui. Il ne voulait pas lui faire honte. Que peut-être un jour, il se rencontre dans la rue, et puis le regard, quand quelqu'un me donne la lampe tous les jours, quand il passe dans la rue, il change de trottoir, d'accord. Pour ne pas faire honte au pauvre, bien que lui, il veut ça, eux ne voulaient pas faire du mal à leur prochain, ils étaient prêts à rentrer dans un four allumé. Il y avait un grand sadique à Bnei Brak. Par contre, comme ça, un peu d'histoire comme ça pour nous chauffer à ce niveau-là. Il y a beaucoup de travail à faire. Si je pouvais, je parlerais 4 heures non-stop. Il y avait un grand sadique à Bnei Brak qui s'appelait Rabbi Avraham Genichowski, un géant en Torah et un géant en Be'alam Chavero, relation entre l'homme et son prochain. Il y a une chavrout avec un ami, Shabbat après-midi. Et un jour, l'ami vient, je suis à la maison, l'ami vient, et par erreur, il sonne ding-dong, Shabbat, sur la sonnette. Électrique, interdit. Que faire? Rav Genichowski dit, si j'ouvre la porte, l'archouma, il aura honte. Maintenant, si je n'ouvre pas non plus, il aura encore plus honte que peut-être que je suis fâché, qu'il a sonné Shabbat, et qu'est-ce que je fais? Il y a une idée. Il a couru dans sa chambre, il a mis un pyjama, et il attend. Et son rabot arrête et tape, tac, 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 5 minutes. À la fin, il lui apporte comme ça complètement, qu'il fait le coucou, s'est endormi. Ah, excuse-moi, j'étais tellement fatigué, je suis allé dormir un peu. Ça fait longtemps que tu tapes, je suis désolé vraiment, j'ai rien entendu. Et bon, viens, allez, on va l'étudier. Tout ça pour pas faire. Vite, mettre le pyjama comme ça pour la jouer, comme s'il n'avait même pas entendu que le type a sonné sur la sonnette. Il y avait à Bnei Brak, la chassidoute de Vishnitz, le Rebbe à l'époque s'appelait le Emre Chaim, un grand sadique. Et il y a une coutume chez les chassidim que lorsqu'il y a une bar mitzvah, alors on va chez le Rebbe, le père de la chassidoute, d'accord, le grand rabbin, et il aide à mettre cette filine au bar mitzvah. Il y avait un monsieur à Tel Aviv qui était religieux, mais très 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 cool, hein, très très relax, très light. Et la bar mitzvah de son fils. Alors lui, à l'origine, il était de Vishnitz. Il dit, bon, on va aller chez le Rebbe. D'accord. Il arrive le lundi matin là-bas avec son fils pour la bar mitzvah, etc. Il amène des paquets comme ça de gâteaux achetés à Tel Aviv. À l'époque, encore aujourd'hui, d'accord. Kashrout, nul. D'accord. Maintenant, tout le monde voit ça, tous les élèves, ils comprennent que c'est une kashrout pas sérieuse. Ils voient la tête aussi du type, on voit qu'il est très light. Alors, le Rebbe met les tefillines, tout ça, puis tout le monde ne sait pas quoi faire des gâteaux. Si on ne mange pas, il va être super touché. Si on les mange, on mange non cacher, que faire? Le Rebbe, il a dit comme ça, il a dit, « Ah, je vois que vous avez envie des gâteaux, n'est-ce pas? Faites comme moi, prenez chacun 2 gâteaux, et vous les mettez dans la poche, on la mangera après que passe Rabbe Noutam. » Ça n'existe pas, Rabbe Noutam, le matin. C'est un truc qu'il a inventé. Il sait que le type, ce n'est pas un grand savant. Il dit, voilà, vous avez tous envie, voilà, prenez, faites comme moi, prenez, vous les mangerez après. Vous ne mangez pas maintenant à cause de Rabbeinu Tam. Prenez-les maintenant, vous les mangerez un peu plus tard pour Rabbeinu Tam. Le type est tout content, tout le monde a pris les gâteaux, il est parti, chacun a pris les gâteaux, donnez ça au cuistot là-bas, Mouataz, d'accord, qui, voilà, pour qu'il mange lui les gâteaux. Une très belle histoire. Le livre dans lequel j'ai lu cette histoire a dit, ça vaut la peine de venir sur Terre, rien que pour écouter. Écoutez cette belle histoire. Il y avait un des grandes générations, il y a 150 ans, c'était le rabbi Yitzhak Elchanan Spector, un des grandes générations. Il reçoit une question de la communauté dans une ville, que le rabbin a tranché que c'était permis. Et eux posent la question, est-ce que le rabbin il a raison dans ce qu'il a dit? Le rabbin voit tout de suite, erreur totale. D'accord, c'est un truc, chaque enfant de 12 ans sait que c'est une erreur. Le rabbin il s'est planté en beauté. Mais il sait que dans la ville là-bas, il y a beaucoup d'ennemis du rabbin. Et si lui répond que le rabbin s'est planté, regardez, la grande génération, il a dit, ce rabbin, il ne sait rien du tout, allez, foutez-le dehors, etc. Ça fera une histoire terrible. Ah, il ne sait pas quoi faire. S'il écrit maintenant, le rabbin a raison, eh ben, il fait planter toute la ville, d'accord. Il fait faire un péché à toute la ville. Que faire? Avez-vous une idée? Hein? Que la grande génération ne sait pas? On ne peut pas faire un truc pareil.
Il dit que c'est lui qui a fait l'erreur.
Non, le rabbin, et les gens de la ville ont écrit, le rabbin de notre ville a dit comme ça, il a raison ou il a tort? Si je dis il a raison, je fais faire pécher toute la ville. Si je dis il a tort, alors je le tue à lui. Il va se remettre dehors, lui, sa famille, etc. Et elle a une idée extraordinaire. Elle a écrit une longue, longue réponse, comme quoi le rabbin a raison. Et il signe, tout ça. Il envoie la réponse. Et après, il a envoyé un télégramme. Écoutez, j'ai écrit une longue réponse pour prouver que le rabbin a raison. En fait, après, je me suis rendu compte, je me suis complètement trompé. En fait, il a tort. Donc, prenez pas en considération ma réponse. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en fait, il a dit comme le rabbin. Et après, il dit, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Bon, c'est le grand de la génération s'est trompé à propos de cette question. Notre rabbin aussi qui s'est trompé. C'est pas grave, d'accord? Comme ça, il a pu dire le vrai psaque et sauver l'honneur du rabbin. Même le grand génération, il s'est planté sur cette réponse-là. Notre rabbin s'est planté, c'est pas si grave. Regarde, lui-même, le grand, il a écrit une chouva entière, une réponse entière, toute fausse, d'accord? Donc, notre rabbin qui s'est trompé, c'est pas si grave, et ça reste quand même un grand tamid chacham. À Israël Salanter, dont on a parlé au début de notre cours maintenant. Sachez juste en passant qu'il a passé beaucoup d'années de sa vie à Paris. Parce que de Paris sortait tout le mal en Europe. C'est là-bas que tout le mal, toute l'assimilation, l'émancipation, tout le fait de quitter la Torah, ça commençait à Paris. Il disait que tout ce qui va à Paris, il y a beaucoup de Rechamaim à Paris, il y a beaucoup de crainte de Dieu à Paris. Parce que tout ce qui va là-bas, il perd toute sa crainte de Dieu. Donc elle reste, c'est plein de crainte de Dieu là-bas à Paris. Et il était à Paris, et il était très très vieux déjà, il sentait qu'il allait mourir. Il est mort là-bas à Paris. Et on lui a mis un jeune homme qui soit avec lui dans la chambre pour le garder. Et lui, il sentait qu'il allait bientôt mourir. Alors, il commence à parler au jeune homme. Il lui dit, tu sais, les gens comme ça, ils ont une sorte d'idée fausse dans la tête. Ils ont peur des cadavres. Ils voient quelqu'un de mort, ça leur fait peur. Alors que ça n'y a rien, c'est un morceau de chair, d'accord. Il y avait l'âme est partie. Mais c'est pas, il va pas se lever, c'est pas un fantôme, c'est rien du tout, d'accord. Et comme ça, pendant de longues, longues minutes, il lui parle comme ça pour le calmer. Quelqu'un, il sait que dans quelques minutes, il part. À quoi il pense? Il fait tchouva. Il pense, je me prépare maintenant à aller rencontrer Dieu. Je regarde que je fais comme si... Lui, il laisse tout ça de côté, les derniers moments, pour pas que ce jeune homme, une fois qu'il va mourir, il est mort. Pour finir, il est décédé. Pour pas que le jeune homme ait peur d'être seul avec un mort, pendant quelques minutes, comme ça, il va le tranquilliser pour le préparer à cela. Benham Havero, au dernier moment de sa vie, faire attention, l'homme et son prochain. Je viens avec une dernière histoire. Il y avait... Décédé il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, 4-5 ans je pense, au Canada, peut-être que tu as entendu parler de lui, Nachman, il y avait un grand Talmid Chacham qui s'appelait Rav Hirschsprung. Tu n'as pas entendu parler de lui, c'est dans le monde ashkenaz plutôt. Rav Hirschsprung. Et lui, avant la Seconde Guerre mondiale, il était jeune homme, donc on voit que c'était vraiment il y a très, très longtemps, était le voir le grand génération, le Rav Chaim Heuser. Rav Chaim Heuser, c'était le grand génération. Chaim Heuser Grodzinski, c'était son nom. Et les deux parlent Torah, et Rav Hirschsprung cite une Gemara traitée Melachot, page 39. Et le Rav Chaim Heuser lui dit, non, c'est page 40. Ah, Kvodarav, je viens de ce truc, c'est page 39. Non, c'est page 40. Bon, alors, on va ouvrir, on va vérifier. J'interdis d'ouvrir. J'interdis. Je ne veux pas qu'on ouvre. Bon, ils ont continué comme ça à parler. Rav Hirschsprung rentre chez lui à la maison, et il va tout de suite prendre Melachot, il ouvre, il voit... Le Rav avait raison, page 40. Il a compris. Le Rav lui a dit encore plus que ça. Il lui a dit, n'ouvrez pas parce que moi j'ai déjà un vieux, tu es un jeune, peut-être tu vois mieux, moi j'ai une mauvaise mémoire. Il a compris que le Rav n'a pas voulu faire honte en public. Le Hirschsprung aurait ouvert, aurait montré qu'il a eu tort, et c'est le Rav qui a eu raison, en public. Le Rav a dit, j'interdis, personne n'ouvre la Gemara. D'accord. Et après il rentre à la maison, il verra lui-même qu'il a fait l'erreur. Le Hirschsprung s'est rendu compte à quel point le Rav Heuser Grodzinski a fait attention à son kavod en public pour ne pas montrer. Il a dit, écoute, je suis déjà vieux, peut-être je me suis trompé. Laissez comme ça. Tout le monde a cru qu'il voulait faire attention à son kavod à lui. En fait, il voulait faire attention au kavod du jeune homme. Que Dieu nous aide, en lisant cette paracha de Mishpatim, à prendre un peu plus sur nous ces choses qui sont tellement importantes, même Chavero, entre l'homme et son prochain, à être sensible à l'autre, délicat avec lui, ne pas hésiter à demander Mechila, à demander pardon si on l'a touché. C'est un art, c'est une profession, c'est un travail d'une vie entière. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.